profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Comment apprend-on à devenir philosophe? Comment se fabriquent les idées? Comment forge-t-on un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Mon invité aujourd'hui a été conseiller du ministre-président de la Communauté française en Belgique. Il a écrit sur l'ego, EGO, les lois du marché amoureux, le pastafarisme et le point Godwin. Et il est avec nous jusqu'à 11h.
Garçon, coffee.
This place? This place? A coffee shop.
What's wrong with that? Nobody ever robs restaurants. Why not?
Pretty smart. I'm ready. Let's do it right now, right here. Come on.
Right. You crowd control. I'll handle employees.
I love you, pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Bonjour François de Smet.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Il y a des matins comme ça, on commence avec un braquage. Tarantino, c'est un réalisateur que vous aimez beaucoup. Vous êtes aussi docteur en philosophie. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous?
Oh, les deux, mon capitaine. C'est comme si vous me demandiez de renoncer à mon père ou à ma mère. Non, mais.
Ah non, vous avez le droit de garder les deux. Donc, qu'est-ce qui compte le plus pour vous?
Ah, écoutez, la philosophie malgré tout. Mais il faut de la philosophie pour regarder convenablement Tarantino.
C'est vrai?
Oui, c'est pour ça que c'est magnifique.
Et ce qui marche, Pulp Fiction, hein.
De Pulp Fiction, 1994, et ce qui marche à tous les coups évidemment avec Tarantino, c'est les dialogues. Tarantino, c'est toujours pareil. Vous pouvez passer tout le film. On vous demande à la sortie de raconter l'histoire, c'est très difficile. Par contre, vous avez en tête ces dialogues surréalistes, mais à chaque fois travaillés, ciselés, percutants, et ce mélange d'horreur et de fiévrolité dont nous sommes absolument tous fans. Je crois que c'est un peu... Les films, c'est comme la musique. Ce qu'on a reçu pendant notre adolescence, je crois, nous marque particulièrement. Mmh. Et je reste très fan de Tarantino. Alors, il y a eu Reservoir Dogs juste avant. Mais avec Pulp Fiction, là, il se lâche réellement. Il y a une vraie histoire, mais il faut se la repasser. Ça n'a en même temps ni queue ni tête. Et surtout, ce qui marque, c'est le côté truculent et en même temps soigné de ses dialogues.
Il y a un équivalent de Pulp Fiction en philosophie?
Peut-être un peu du Nietzsche. Assaisonné de Bertrand Russell et de quelques contemporains, donc des gens qui sont peut-être parmi ceux des philosophes, ceux qui ne sont pas tout à fait des philosophes, comme les deux que je viens de vous parler, qui ne se définiraient en tout cas pour Nietzsche pas nécessairement comme tel, parce que lui c'était un grand destructeur, il n'a pas construit de système. Mais les philosophes que je préfère, que je pourrais ajouter Hannah Arendt dans un autre style, sont ceux qui ne se sont jamais vraiment considérés ou présentés comme des philosophes, mais qui, à force de bâtir des ponts entre disciplines, pour Hannah Arendt par exemple, entre le droit, la sociologie, la philosophie, ont fait avancer plus de choses, à mon avis, que certains philosophes qui sont peut-être trop restés dans leur couloir.
Et vous présentez-vous comme philosophe?
Je suis toujours très flatté qu'on m'accole cette étiquette. Oui, je crois qu'il faut tenter d'être à la hauteur de cela, mais j'avoue que c'est un exercice d'immodestie, parce que pour moi d'abord un philosophe c'est à la fois une pratique et c'est une œuvre. La pratique, c'est celle de l'étonnement. Pour moi, un philosophe ou une philosophe, c'est quelqu'un qui se saisit des petits morceaux d'étonnement qui nous saisissent, un peu comme quand il y a un bug dans la matrice, pour ceux de notre génération, Adèle, qui ont vu le film Matrix, mais qui ne lâche pas ce truc, qui ne lâche pas ce qui les chatouille, qui ne lâche pas cette cause d'étonnement qui leur fait voir qu'il y a quelque chose qui cloche dans le monde tel qu'il est et qui le décortique, qui travaille jusqu'à en extraire quelque chose. Ça, c'est la méthode. Mais pour être philosophe, il faut aussi créer des concepts, comme dirait Deleuze et quelques autres. Donc il faut quand même avoir une phase d'imagination et de créativité. Il y a un côté artisanal et artistique. Vous n'êtes pas juste un philosophe si vous faites du commentaire de texte, même s'il y a quelque chose de très honorable à passer toute sa vie sur la critique de la raison pure de Kant éventuellement. Et puis il faut une œuvre. Ça, je ne suis pas encore sûr. Alors, je commence peut-être à y arriver modestement, d'une manière beaucoup moins académique à laquelle j'aurais pu m'y attendre, mais je pense que c'est aux autres de dire si au bout du compte, on a fait œuvre de philosophie. J'essaie de faire des livres qui sont agréables à lire, mais où il y a du fond, qui peuvent détonner ou déranger. Et ce qui est intéressant, j'ai souvent des retours, parfois négatifs, de gens qui comprennent pas ce que je veux ou qui sont choqués, mais aussi de gens qui, visiblement, ont été portés un pas plus loin, ont été troublés par quelque chose, parfois trois lignes ou un livre. Et ces jours-là, je me sens bien, je me dis que j'ai peut-être fait œuvre de philosophie.
Bon, je vous reposerai la question dans 50 minutes, parce qu'on va passer 50 minutes ensemble, François de Smet. On va remonter aux origines de votre rencontre avec la philosophie, interroger vos influences extra-philosophique et philosophique d'ailleurs, on va pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts, réfléchir au rôle politique du philosophe dans la cité. Mais avant cela, s'il fallait essayer de trouver un angle, un thème, un concept autour desquels s'articulerait votre pensée, quel serait-il? Puisque j'ai dit, vous avez travaillé sur le point Godwin, vous avez travaillé sur les lois du marché amoureux, vous avez travaillé sur le pastafarisme, vous êtes engagé politiquement, qu'est-ce qui vous anime? On va s'en tenir pour l'instant à l'écriture des livres. Est-ce qu'il y a un problème commun?
L'identité. Je suis fasciné par la quête identitaire des femmes et des hommes en général. Je suis fasciné par le fait que nous passions une énergie et un temps fou à vouloir être de telle religion, de telle nationalité, de tel sexe, de telle orientation sexuelle, et que ça nous travaille autant. Et que le grand carrefour entre être ou avoir, être et avoir été, ne soit toujours pas résolu. J'ai commencé au début de ma carrière à travailler beaucoup sur les questions identitaires pur sucre, la lutte contre le racisme, contre les discriminations. J'ai travaillé aussi dans le domaine des migrations, qui est aussi très prenant sur cette question-là. Et j'ai l'impression que c'est l'un des grands thèmes de notre époque. Il y a un président ici dans ce pays qui a un moment créé un ministère de l'identité nationale et ça avait fait un tollé.
Donc ce pays-là, c'est la France.
Tout à fait, ouais. Ce grand pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça a fait un tollé à l'époque. Et je peux le comprendre parce que présenté comme tel, ça donne nécessairement l'idée qu'une identité, ça doit être exclusive. Mais c'est un vrai souci. La question migratoire, par exemple, qui tourmente tellement une partie de nos opinions publiques et qu'on n'arrive pas à aborder rationnellement parce que c'est un problème d'une complexité inouïe avec du social, de l'économie, le fait que des gens veulent fuir leur pays parce qu'ils sont persécutés dans leur pays ou parce qu'ils veulent mieux vivre, ce qui est un désir tout à fait légitime. Ça questionne tellement ce que nous sommes que ça finit par rejaillir en question identitaire et par favoriser, par exemple, des votes assez populistes d'extrême droite, parce que l'Européen moyen ne se sent pas en danger à cause du migrant juste parce que un nouveau venu arrive, mais parce qu'il le questionne sur sa propre identité. Par exemple, sur le fait que quelqu'un qui ose quitter sa terre pour mieux vivre, parce qu'il ne se résigne pas à vivre sur son morceau de sable pendant que moi je vis sur ma terre verte, interroge le fait qu'il n'y a pas plus inégalitaire dans le monde que le lieu de naissance, la répartition des talents et la répartition des chances de réussir sa vie.
Et je précise que vous avez dirigé l'organisme fédéral belge chargé de veiller aux droits fondamentaux des étrangers, notamment de 2015 à 2019, c'est bien cela?
Absolument. Donc pendant la crise migratoire et pendant qu'en Belgique nous avions un gouvernement assez dur sur les questions migratoires, ce qui était un moment intéressant à vivre.
C'est-à-dire que vous aviez un gouvernement déjà?
On avait un gouvernement, mais était-ce, sans vouloir faire de la politique politicienne, était-ce beaucoup mieux que cette absence de gouvernement actuel?
En tout cas, cette question de l'identité qui vous travaille, vous avez publié un livre qui s'appelle Lost Ego, la tragédie du je suis, entre guillemets, donc sans doute je pense donc je suis, c'est l'héritage philosophique auquel on pense en premier. Savez-vous d'où elle vous vient? Pourquoi cette question de l'identité vous fascine-t-elle autant?
J'en sais absolument rien. Alors, ce sera peut-être plus évident après une dizaine de livres ou après une bonne psychanalyse qu'il va bien falloir un jour que je fasse. Ce dont je m'aperçois, c'est que dans la manière dont je m'y prends pour me lancer chaque fois dans un de ces livres, vous venez de parler de Lost Ego. En fait, c'est un livre sur le libre arbitre. Ça démarre comme une quête identitaire perdue. Mais je m'aperçois que nous sommes à ce point perdus sur nos identités, nous essayons à tel point de les remplir en permanence qu'il nous manque, je crois qu'on est en panne de récit. En politique, ça marche très bien. Mais nous sommes, ce n'est pas simplement politique, dans tous les aspects de la vie, nous sommes une civilisation entièrement basée sur le récit, de l'Odyssée jusqu'à Netflix. Nous sommes entièrement des biographies ambulantes. Si vous voulez aller aux élections, vous devez raconter un petit peu qui vous êtes et d'où vous venez. Vous pouvez, si vous présentez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous avez besoin de donner un petit peu un minimum. Et nous sommes des civilisations de récit. Et tout ce qui nous entoure, la politique, la religion, le show business, évidemment, la fiction, le roman, le théâtre, et même d'une certaine manière la philosophie, se construit sur des récits. Et j'ai l'impression que nous sommes en panne de grands récits mobilisateurs parce que nous sommes entourés d'idéologies qui se sont à peu près épuisées et on n'a pas encore pris tout à fait conscience de notre profonde contingence et profonde finitude. On n'a toujours pas intégré
qu'on allait mourir.
on n'a toujours pas intégré surtout Darwin. Et je suis très sérieux en disant ça. Je pense que la théorie de la sélection naturelle, avec ce qu'elle implique, c'est-à-dire une absence de sens absolu de l'existence humaine, le fait que, comme nous sommes sûrs que nous ne sommes pas le fruit d'un créateur qui a voulu directement créer quelque chose de parfait, mais que nous sommes un morceau de l'évolution et qui va continuer à évoluer, que nous sommes là à peu près par hasard, eh bien, il n'y a plus de sens explicable global. Je crois que c'est une idée très difficile à intégrer, raison pour laquelle beaucoup de gens n'en ont pas encore tiré toutes les implications.
L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent au monde, et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez, étranges citoyens du monde, exilés dans leur propre patrie. Sauf aux instants fulgurants de la plénitude, toute réalité est pour eux inachevée.
Vous écoutez Albert Camus sur France Culture lors d'un entretien avec Jean Mongin enregistré le 13 septembre 1955, dans lequel Camus lit L'homme révolté. C'est votre première rencontre avec la philosophie, François de Smet, Camus ?
Oui, mais pas via L'homme révolté, via ses romans. L'étranger ou la peste. Alors, je sais que c'est d'un classique, peut-être apparemment à pleurer, mais ça reste un classique, pour moi, indétrônable et nécessaire. Et c'est une initiation à la philosophie, sans en avoir l'air.
Les romans de Camus ?
Les romans de Camus. Bien sûr, après, vous allez sur L'homme révolté, qui est quand même un tout petit peu plus difficile, et sur les autres. Il faut imaginer le contexte. Moi, je crois que pendant longtemps, enfant, adolescent, j'avais un petit côté rêveur. Je pense que j'étais philosophe d'une certaine manière, ou allez, que j'avais des dispositions possibles à philosophie sans le savoir. Mais je grandis dans un pays où il n'y a pas de cours de philo en terminale. Il y a des cours de morale.
La Belgique.
Voilà. Ce grand pays aussi qui est la musique, où il n'y a pas de cours de philo en terminale, vous avez des cours de morale et de religion, donc on scinde en plus les élèves selon l'appartenance religieuse de leurs parents. Alors, je fais partie des gens qui essaient de changer ça et de faire en sorte que tout le monde ait un cours de philosophie et de différentes religions et que nous ne soyons plus des analphabètes tous les uns les autres religieux et philosophiques. Mais bon, il arrive donc que ce soit dans des cours de littérature. Parce qu'un prof de français décide de vous emmener au théâtre voir Huis Clos ou décide de vous faire lire L'étranger ou La peste, que vous avez un premier contact avec ce qui ressemble à de la philosophie. Et ce que l'œuvre de Camus, de ce que j'en ai compris, mais parce qu'elle arrive aussi à s'installer par une certaine simplicité, c'est ça qui est génial. Quand vous lisez L'étranger, d'abord vous dites c'est brillamment écrit, en même temps ça a l'air tellement simple, mais il faut du génie pour arriver à quelque chose qui a l'air simple et qui ne l'est pas du tout. C'est une quête identitaire complètement, et c'est une quête de l'absurde. Entre, quand vous prenez l'absurde chez Camus, ou la nausée sartrienne avec son histoire de marronnier, et une série vous avez à peu près la même idée, c'est-à-dire le dénuement de l'être humain par rapport à la condition absurde de son existence, pour rebondir sur ce dont nous venons de parler.
Sauf qu'il y en a un qui arrive un peu plus à en jouir que l'autre.
Visiblement.
De cette contingence. Camus est plus du côté de la joie quand Camus du côté de la nausée.
On rigole plus avec Camus qu'avec Sartre, quoique. Je me souviens avoir vraiment ri dans un de mes autres premiers contacts avec la philosophie, c'était au théâtre, c'était Huis Clos de Sartre, tout aussi un grand classique. Mais ça montrait, j'aime bien l'idée d'un huis clos en tant que tel, au-delà du titre de la pièce, parce que, pour ça que j'aime bien Réservoir Dogs de Tarantino aussi, ouais. ça montre qu'il ne vous faut pas grand-chose en termes de décor, de scénographie, pour faire quelque chose d'intéressant, pour construire un narratif qui permet à des personnages conceptuels ou réels d'amener des considérations essentielles sur l'existence. Et il y a des moments dans Huis Clos, malgré que Sartre soit Sartre, qui sont très drôle. Et arriver à amener les gens avec des points d'humour et en construisant un récit, c'est précieux pour moi. C'est pour ça que dans ce que j'essaie de faire dans mes livres, j'essaie vraiment que le lecteur ne s'ennuie pas. J'essaie de le happer par une anecdote. J'essaie qu'il ait l'impression de lire un récit sans être pour autant un roman et qu'il ait une envie de tourner les pages plutôt que d'essayer de les colorier par ennui.
Et à quel moment décidez-vous de faire de la philosophie votre métier ?
Alors, je décide d'en faire mes études, ce qui est encore loin d'en faire un métier aux grandes dames à l'époque, par exemple, de mes parents qui se demandaient ce que j'allais bien pouvoir faire en faisant de la philosophie. Il y avait ces quelques contacts à l'école et il y avait le fait que la compagne de l'époque de mon grand frère, qui était une Française venant de Strasbourg, Patricia, et qui...
On la salue.
Et qui a donc vécu quelques années à Bruxelles et qui a étudié la philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Et en les côtoyant, évidemment, parce que c'est mon frère et ma belle-sœur de l'époque, en voyant les cours, alors les cours de philo qu'elle avait à l'époque, c'était un autre univers que forcément Camus et Sartre. On était dans l'anti-Œdipe et dans Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze et Guattari, donc quelque chose de beaucoup plus abstrait, de pas nécessairement simple. Et ce qui me titillait depuis longtemps a commencé à trouver un nom. Et tiens, mais ça m'intéresse. J'ai envie de suivre ces études, même si je ne sais pas de quoi, vers où ça va mener. Mais pour vous donner mon état d'esprit à l'époque, j'hésitais entre ça et aller faire de la comédie. J'avais même tenté l'équivalent du conservatoire à Bruxelles, ce qui est évidemment raté d'une part à cause d'un manque évident de talent suffisant, mais aussi à cause d'une impréparation manifeste. Mais j'aurais pu faire tout à fait autre chose de ma vie. Mais il y aurait alors eu un manque terrible, c'est de ne pas donner corps et aspiration à ce sentiment de contingence et d'absurde qui m'habite, je crois, depuis l'enfance.
C'est ça qu'il vous fallait vers la philosophie, le sentiment de contingence et d'absurde. Que vous auriez pu ne pas être là, qu'au fond, il n'y a pas un sens préétabli, ni une intention qui régit notre monde. Et...
Oui, je trouve même fascinant que tout le monde ne passe pas son temps à se poser la question. C'est peut-être mieux comme ça, hein, sinon on serait... Mais je pense que dans l'enfance, et on essaie souvent, quand on a des enfants, ou je vois ça parfois autour de moi, de donner à... aux petits-enfants un agenda de ministre qui ne s'ennuie jamais, qui se fasse tout le temps du sport, du théâtre ou que sais-je. Moi, j'ai un grand souvenir de mes phases d'ennui étant enfant. Et là, se produit dans l'ennui, alors ça marche peut-être pas avec tout le monde, mais ça, si ça marche avec certains enfants, il faut les laisser s'ennuyer, arrive le moment du rêve, de la créativité, de l'interrogation. Et bizarrement, alors que ça pourrait être des moments d'une langueur insupportable, j'ai des souvenirs de ça. Et j'ai des souvenirs des questions que je me posais à l'époque. Auquel j'ai pas encore totalement
Vous en faites
répondu.
Quelque chose aujourd'hui dans votre travail de ces questions ?
Oui, bien sûr. J'essaye de me... Je sais pas si vous avez ça aussi, de se reconnecter à des souvenirs de questions que vous posiez ou de souvenirs d'un sentiment que vous aviez lorsque vous avez appris telle nouvelle. Et comme les émotions et les sentiments passent très vite, vous avez parfois besoin de vous reconnecter à cette émotion-là parce qu'elle était très authentique de votre premier ressenti. Et donc oui, il m'arrive d'aller repuiser. Alors, il y a certains psychanalystes qui vont vous expliquer ça mieux que moi, hein, que toutes nos vies à chacun ne sont qu'une manière de compenser ce que nous avons reçu ou de ce que nous n'avons pas reçu dans notre enfance, qui était par ailleurs très heureuse. Merci maman, merci papa, je n'ai aucun reproche à faire aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui s'est déclenché, c'est vrai, dans le fait que, étant enfant, on m'a laissé m'ennuyer. J'en suis très reconnaissant à mes parents.
Puisque vous êtes dans l'enfance, on va y rester encore un peu.
Mon enfance passa grisaille en silence, de fausse révérence, en manque de bataille. L'hiver, j'étais au ventre de la grande maison qui avait jeté l'encre. Parmi les joncs, l'été à moitié nu, mais tout à fait modeste, je devenais indien. Pourtant, déjà certain que mes oncles repoussent m'avait volé le Far West. Mon enfance passa, les femmes aux cuisines.
Mon enfance de Jacques Brel. Jacques Brel, vous le qualifiez non seulement de chanteur, mais de poète aussi, François Desmet.
Ah, c'est d'abord un poète, je pense.
D'abord.
Qu'il se serait d'abord défini comme tel. Oui, pour moi, c'est sans doute un des plus grands poètes francophones et un des plus grands chanteurs. Il est encore écouté et découvert par toute une série de jeunes aujourd'hui. Il a ce petit côté avec deux, trois autres d'indémodable. Et puis évidemment, ce qui me touche, et notamment dans cette chanson-là, ce qui se ressent, parce qu'on voit les paysages derrière lui, on devine les odeurs de tabac ou de fromage dont il parle. Il y a tout ce contexte, en l'occurrence des Flandres, en l'occurrence belge, avec une certaine langueur là encore, parfois un véritable ennui. On parlait d'ennui.
Oui.
Cette chanson est sur son ennui d'enfant, mais dans lequel, chez lui, vous voyez que ça a donné quelque chose. Je ne compare pas à Brel, deux minutes, mais chez lui, ça a donné une envie d'écrire. Lui est allé puiser dans son enfance à peu près tous les matériaux dont il a besoin après pour écrire. Et puis, il expose, et c'est en ça que c'est un poète merveilleux, il arrive à exposer ses fragilités. Avec pudeur, il a toute fin de cette chanson. À peu près là, on est.
Bon, allez-y. Ouais.
Il a à un moment cette citation que je trouve magnifique, et où il explique qu'il voit les adultes dans un jeu de rôle autour de lui, dans lequel il sait qu'il ne fait pas partie. Ça le trouble parce qu'il a l'impression de tout cerner à jour. Il voit le jeu, il voit les fils derrière les marionnettes, il voit le jeu de ces adultes qui parfois ne s'aiment pas, font semblant. Et il est là comme observateur, en voyant tout, mais en étant quand même déchiré dans ses émotions. Et il a cette expression magnifique qui dit « J'avais l'œil du berger et le cœur de l'agneau. »
Je m'étonnais surtout d'être de ce troupeau qui m'apprenait à pleurer que je connaissais trop. J'avais l'œil du berger, mais le cœur de l'agneau.
L'œil du berger, le cœur de l'agneau, pourquoi ça vous touche autant?
Parce que ça doit être très dur d'avoir l'œil du berger et le cœur de l'agneau. D'avoir peut-être l'œil qui permet d'anticiper les choses, d'avoir les compétences nécessaires à guider un troupeau, avoir une connaissance de l'anticipation des événements, avoir au fond un sens politique. Et en même temps d'avoir le cœur de l'agneau, c'est-à-dire une vraie fragilité, une envie de ne pas aller se battre, une envie d'aller se réfugier dans ce que nous sommes tous aussi par ailleurs, c'est-à-dire à la fois des aventuriers avec l'œil du berger, mais aussi des conformistes ou des gens qui ont peur, et des gens qui n'ont pas envie d'aller se battre en permanence. Et ça, c'est l'ambivalence de Brel, mais je m'y reconnais beaucoup.
Ouais.
Et je pense qu'en fait, beaucoup de gens peuvent s'y reconnaître. Je trouve cette phrase magnifique. Je trouve que pour moi, c'est à titre personnel, mais c'est parce que ça me frappe le plus, me touche le plus, c'est ce qu'il a écrit de plus beau.
Parmi les philosophes qui ont compté pour vous, on trouve aussi sept personnes où on change d'ambiance.
Ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden zu jener Zeit. Eid ist Eid.
Glauben Sie, dass jemand, der diesen Treueeid schwor, nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht?
Nach dem Tode Hitlers? Ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit.
Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque.
Vous venez d'entendre un extrait du film de Margaret von Trotta qui porte le nom d'Anna Arendt, qui date de 2012, et puis ensuite un extrait du documentaire de Jean-Claude Lubchansky qui date de 1975. Anna Arendt, c'est son travail sur le terrain aussi qui vous plaît autant, François Desmet?
Le fait qu'en effet ce ne soit pas une philosophe, ce serait peut-être pas d'ailleurs défini comme ça, plutôt comme théoricienne politique, en effet ne fait pas du travail de philosophe en chambre, elle va sur le terrain. Ce qui me plaît aussi, c'est son courage, qui est la vertu philosophique et politique, à mon avis, la plus précieuse. Et dans le film que vous venez de citer, c'est assez bien retranscrit. Quand elle publie Eichmann à Jérusalem, qui est donc une addition de quatre retranscrits du procès d'Adolf Eichmann qu'elle est allée suivre en 1960-61 à Jérusalem, en partie, elle n'a pas fait tout le procès, mais elle est une des premières à oser dire ce qui est manifeste, à savoir ce gars derrière cette grande vitre n'a pas l'air d'être taillé pour le rôle, il n'a pas l'air d'avoir l'envergure du génie du mal qu'on aurait tous bien aimé voir. Il est sinistrement banal et c'est peut-être ça qui est le plus effrayant.
Donc il est jugé pour les crimes qui concernent l'Holocauste, hein, quand même, faut
oui,
le dire.
Oui, mais avec une particularité, c'est que Eichmann, pour le faire court, il était le logisticien de la solution finale, mais il n'était ni parmi les têtes pensantes qui ont décidé la solution finale, ce qui n'est rien excuse bien sûr, mais il n'était pas non plus dans les petites mains. Il n'a tué personne de ses mains. Il posait donc un problème de catégorisation juridique extrêmement intéressant parce que c'était un maillon de la chaîne indispensable. Son mauvais jeu de mots, il faisait en sorte que les trains arrivent à l'heure, mais il aurait pu, si on lui avait demandé, il avait même examiné la possibilité, il aurait pu organiser la déportation de tous les Juifs aussi à Madagascar. C'était un des plans imaginés très sérieusement avant la solution finale. Autrement dit, il a toujours fait ce qu'on attendait de lui. Et ce qu'on peut lui reprocher, ce qu'on doit lui reprocher à raison, c'est que jamais à un moment, sa conscience, qui était tourmentée par ses velléités d'avancement, par sa place dans la hiérarchie SS, par des tas de choses qui peuvent nous paraître inconcevables quand on voit l'horreur des crimes commis, tout ça n'affleure pas à sa conscience parce qu'elle est entretenue dans une sorte de banalité, mais entretenue depuis les années 30, depuis l'émergence du nazisme en Allemagne, qui a fait en sorte que ce genre de choses soit possible. C'est en ça que Hannah Arendt tape juste. Elle nous a dit, elle a écrit un moment, il est encore plus effrayant de voir la vitesse avec laquelle l'Allemagne s'est dénazifiée que de voir la vitesse à laquelle elle s'est nazifiée, parce que ça dit tout de notre conformisme humain absolu. Et quand je parle de courage, c'est parce que oser dire ça, oser dire que peut-être que quelqu'un d'autre, qu'Eichmann aurait pu commettre les mêmes crimes. Dans un contexte, dans les années 60, où des Israéliens jugent Eichmann, où elle est juive d'origine allemande devenue américaine, où elle s'enguirlande notamment avec Hans Jonas, avec d'autres de ses collègues qui comprennent pas ce qu'elle dit, qui comprennent pas, mais enfin, est-ce que tu es en train d'essayer de justifier l'injustifiable? Est-ce que tu es en train de dire que c'est un acte banal et que c'est pas vraiment de sa faute? Et Hannah Arendt, elle est au-delà de ça, elle essaie de comprendre, au-delà du fait que, bien sûr, il faut juger les nazis, comment faire en sorte que tout ça ne se reproduise pas? Comment faire en sorte que si une nation aussi civilisée qu'était ce phare culturel qu'était l'Allemagne dans les années 20 a pu basculer, comment peut-on être sûr que nous ne basculerons pas un autre jour? Tout son travail est là. Et elle a eu le courage, alors que c'était pas du tout une opinion facile à défendre et qu'elle aurait pu simplement faire corps avec l'intelligentsia américaine et juive qui l'entourait et qui étaient ses amis. Elle a eu un courage de dire non, le mal est banal et c'est dans l'absence de pensée que naît le mal.
Voilà, la banalité, ça ne veut pas dire que la Shoah est un phénomène
absolument
banal.
Absolument pas. Ça veut dire que ce qui la rend possible, c'est bien sûr, il faut un psychopathe qui arrive au pouvoir et qui ait la volonté de mettre la machine, mais il faut beaucoup de volonté servile comme petit rouage pour qu'une machine pareille se mette en place. Il aurait suffi pourtant à quelques endroits que quelques rouages ne soient pas là ou se grippent volontairement pour que toute la machine se grippe. Et donc, j'aime sa clairvoyance et son courage intellectuel qui je trouve, n'est pas simple. Il faut toujours être courageux par rapport à chaque contexte.
Aller sur le terrain demande du courage. Est-ce que c'est le rôle du philosophe de faire ça?
Je pense que oui. Je pense que si on veut faire de la philosophie qui soit autre chose que du commentaire de texte, il faut d'une manière ou d'une autre être à l'écoute des problèmes de son temps, essayer d'y apporter, si pas une ébauche de solution, une vision à laquelle les autres ne pensent pas.
Ça vous fait soupirer?
Oui, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a des jours où je me dis que ma vie aurait été plus simple si j'étais peut-être allé dans du commentaire de texte ou dans quelque chose de beaucoup plus. J'aurais fait ça, à mon avis, honorablement, mais sans peut-être être aussi utile que ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais c'est pas simple, évidemment. Vous pouvez être philosophe et faire des tas de choses sans vouloir changer le monde. Mais je vois pas comment on peut être philosophe, pratiquer cette méthodologie de l'étonnement insatisfait perpétuel sans ne pas avoir envie, dans un sens ou dans un autre, hein, on peut être de gauche ou de droite, ou sans avoir envie tout de même de changer le monde d'une certaine manière ou de le rendre un peu plus fréquentable.
D'autant que vous avez relevé vos manches. François de Smet est allé travailler aux côtés de l'ancien politique belge, membre du mouvement réformateur. Vous avez été le conseiller, lorsqu'il était ministre-président de la Communauté française de Belgique de 1999 à 2004, d'Hervé Asquin.
François est un laïc engagé. C'est quelque chose d'extrêmement important dans sa philosophie. Et il y a un débat aujourd'hui en Belgique auquel il est mêlé et il va être de plus en plus mêlé. Faut-il inscrire le principe de laïcité dans la Constitution belge? D'autant que ce mot n'existe ni en irlandais, ni en allemand, qui, vous le savez sans doute, sont aussi des langues nationales dans mon pays.
C'est Manon de la Salle qui a appelé Hervé Asquin pour lui proposer de dire quelque chose à votre sujet. Il vous parle de laïcité directement, hein, François de Smet.
Oui, oui, c'est un de nos grands points communs. C'est une vraie belle rencontre. D'abord, c'est mon premier travail. Je sortais de... j'avais terminé la philosophie, j'avais défendu mon mémoire avec Jean-Marc Ferry à l'Université libre de Bruxelles. Et n'étant pas sûr de pouvoir trouver facilement un emploi, j'avais commencé des études de droit en parallèle que je m'apprêtais à continuer. Et puis Hervé Asquin, qui pour son cabinet cherchait un philosophe non encarté, non spécialement déjà happé par un camp ou par un autre en politique, a demandé conseil à une série de ses amis professeurs à l'Université libre de Bruxelles qui ont conseillé mon nom. Alors moi, je ne cherchais pas de travail, mais j'y suis allé par curiosité. Je connaissais évidemment Hervé Asquin pour avoir été à certains de ses cours. C'est une personnalité évidemment très connue en Belgique, brillante, et qui avait à ce moment-là une fonction pas facile parce que, sans très tôt dans la technicité politique belge, il s'agissait de présider un gouvernement d'une des entités fédérées qui était particulièrement éclatée et qui est essentiellement compétente en matière de culture et d'enseignement, d'audiovisuel, de sport et de jeunesse. Et donc je me suis occupé là de dossiers de citoyenneté, d'égalité des chances. Mais c'est vrai, alors nos chemins politiquement se sont un tout petit peu éloignés, mais nous partageons une profonde estime réciproque et un combat commun sur la laïcité, sans aucun doute, qui n'a en effet pas la même acception en Belgique et en France. On n'a pas d'équivalent de la loi de 1905 chez nous. C'est un tout petit peu plus compliqué. La laïcité n'existe pas comme telle, comme principe ancré dans la Constitution, même si on est un pays laïque dans les faits, dans une série de choses. Mais prenez l'exemple des cours de philosophie et qui n'existent pas, mais qui n'existent pour l'instant qu'un cours de morale et de religion confessionnelle. C'est-à-dire qu'on explique à chaque enfant inscrit au cours de religion catholique ou de religion musulmane, de religion israélite, à être théoriquement, même s'il y a des passerelles et que ça a un peu changé, un petit catholique, un petit juif ou un petit musulman, il faut évidemment, c'est un dernier fossile, je crois, d'un État qui n'est pas tout à fait laïque.
Donc votre position sur la laïcité, quelle est-elle ?
C'est qu'on doit inscrire évidemment le principe de laïcité dans la Constitution, mais qu'on doit surtout faire en sorte que la laïcité, comment vous dire ? Ça doit être un principe inclusif. Bien sûr, on peut réglementer, comme on le fait en France, le port de certains signes religieux dans une série d'endroits comme l'école ou les administrations, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, un, la liberté prime, notamment la liberté de port de signes dans la rue ou ailleurs, mais aussi qu'on fasse en sorte que la société se mélange beaucoup plus.
Donc plus dans le modèle nord-américain, ce qui se passe au Canada, le multiculturalisme ?
Oui, mais sans nécessairement passer par la reconnaissance d'organisations qui gèrent les minorités. Moi, je trouve, et c'est valable dans toute l'Europe, je trouve qu'on a un problème à partir du moment où les villes ne se mélangent pas. Vous avez une montée parallèle du racisme et du repli identitaire qui s'alimentent les uns les autres. Chaque fois que je parle de laïcité, j'essaye de parler en même temps de lutte contre les discriminations. À Bruxelles, c'est très frappant, vous avez trois Bruxelles. Vous avez un Bruxelles plutôt blanc, bourgeois dans le sud et à l'est. Vous avez ce qu'on appelle le croissant pauvre qui commence dans la commune bien connue de Molenbeek et qui continue vers le nord. Et puis vous avez les eurocrates, ou les gens de l'Union européenne ou de l'OTAN, et qui survolent un petit peu tout ça et qui forment une caste à part. Et tous ces gens-là ne se croisent pas. Et donc la laïcité, par exemple ici, c'est pas juste essayer de faire des règlements, c'est de faire en sorte que ces gens se croisent beaucoup plus. C'est casser ce qui fait que dans la ville les gens ne se croisent pas. C'est faire plus de lignes de métro, c'est créer plus de piétonniers, c'est résoudre les problèmes d'emploi dans les communes difficiles. C'est beaucoup plus que un principe républicain français.
Oui, là c'est plus que la laïcité, c'est un programme social.
Oui, mais tout est dans tout, vous savez bien.
Et comment est-ce que vous conciliez l'engagement politique et le travail philosophique ? Vous n'écrivez pas sur la laïcité, en tout cas c'est pas une obsession dans vos sujets, même si on peut le trouver. Et inversement, quand vous vous engagez politiquement, j'imagine c'est pas le lieu de proposer des hypothèses de pensée comme vous le faites dans vos livres.
J'ai écrit sur la laïcité, mais vous avez raison de poser cette question. J'ai toujours fait autre chose. J'ai toujours eu un travail à côté de mes activités de philosophe et d'essayiste. J'ai commencé avec Hervé Asquin, puis j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir. Vous avez parlé de Myria dans une série de domaines. Ici, je fais de la politique, mais je scinde bien les deux. Mais j'ai besoin... C'était pas nécessairement voulu au départ. Je crois que j'aurais pu faire une carrière classique, académique, de facture respectable peut-être, ça ne s'est pas présenté comme tel, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui j'ai besoin de cet équilibre, j'ai besoin de faire quelque chose, d'avoir ma bulle et de pouvoir être spéculatif, même si chacun de mes livres a toujours un ancrage dans le réel, et j'ai besoin de me frotter au monde réel, gérer des budgets,
besoin.
Oui, gérer des hommes et des femmes, avoir une vision prospective, amener une structure, comme Myria par le passé, ou comme le parti politique dont je m'occupe aujourd'hui, vers un avenir un peu plus intéressant et brillant, me mêler, et j'ai besoin des deux, et l'un me ressource vis-à-vis de l'autre. Je suis à peu près sûr que je n'écris pas, je ne fais pas de la philosophie comme si je ne faisais que de ça. C'est constamment nourri de ma vie de terrain. Et de la même manière, chaque fois que je travaille dans des jobs entre guillemets normaux et qui sont avec le temps devenus de plus en plus des jobs de management d'une manière ou d'une autre, je le fais sans oublier un instant d'être philosophe. Ça veut dire, par exemple, pour solutionner un problème, ne pas se contenter de voir la position de l'un et de l'autre, mais chaque fois étendre le cadre, essayer de trouver la solution ailleurs que sur la table. Parce que souvent la solution est ailleurs que sur la table. Avoir une plus grande, empathie pour la position de l'autre que ce qu'on pourrait avoir en moyenne. Se dire ce que l'autre veut vraiment et la raison pour laquelle il veut ceci, c'est ça. Donc peut-être qu'on peut trouver un point commun et qui peut nous satisfaire tous les deux si on va à cet endroit que ni lui ni moi, pour l'instant, ne voyons. C'est une manière particulière, à mon avis, de travailler. Et si j'ai de la moindre éventuelle plus-value dans l'un comme dans l'autre, c'est parce que j'ai ces deux piliers. Mais j'ai besoin des deux. Je crois que je continuerai, quoi que je fasse, à continuer à avoir besoin des deux.
Alors, on va voir comment vous procédez en prenant un exemple, l'un de vos livres. Et pour ce faire, on va faire un petit détour et laisser la parole à quelqu'un qui travaille à Radio France, qui est belge aussi, et qui, pour les besoins de sa chronique, s'est fait passer pour quelqu'un d'autre.
Je suis pastafariste, Patrick. Ah, oui, non, d'où cette passoire, ma tête. C'est un signe religieux. Je vous demanderai donc de ne pas me stigmatiser tous autour de cette table. Signe religieux qui, vous l'aurez remarqué, a immédiatement mis une bonne ambiance dans ce studio. Si j'avais porté une kippa ou un voile pour ma chronique, il y aurait une petite tension. Selon l'évangile pastafariste, tout ce que je vous dis est absolument vrai. L'évangile a été écrit aux États-Unis en 2005. Notre Dieu, monstre spaghetti volant invisible, a créé le monde après avoir beaucoup trop bu. Et c'est l'ivresse du Dieu qui explique les imperfections de ce monde.
Vous aurez peut-être reconnu Alex Vizorek, c'était sur France Inter le 11 octobre 2016. Qu'est-ce que c'est que le pastafarisme ? François de Smet, c'est le sujet de votre dernier livre.
Oui, qui vient de sortir, effectivement, Deus Casino. Je vous remercie d'en parler. C'est génial, le pastafarisme, Adèle. C'est effectivement une religion créée pour rire, mais qui marche presque aussi bien qu'une vraie religion. C'est l'histoire d'un certain Bobby Anderson, étudiant, qui en 2005, aux États-Unis, a écrit une lettre au comité d'éducation de l'État du Kansas qui venait d'obliger les écoles à enseigner à égalité de temps la théorie du dessin intelligent, c'est-à-dire une sorte de créationnisme soft, avec la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Ce qui est évidemment un scandale d'un point de vue scientifique, et donc ce Bobby Anderson scientifique s'en émeut, mais pas en attaquant bêtement ou en faisant un pamphlet critique. Il écrit au comité en disant « Puisque c'est comme ça, je voudrais que, de la même manière, un troisième temps à égalité soit consacré à ma religion personnelle, qui est, tenez-vous bien, le fait que l'univers a été créé par un monstre, comme l'explique notre ami Vizorek, un monstre fait de pâtes, de spaghettis et de boulettes de viande qui aurait créé l'univers en 3 jours après une orgie de bière et puis se serait reposé les 3 jours suivants. Forcément, le résultat n'est pas manifeste. Effectivement, les adeptes de ce culte portent une passoire sur la tête. Ça devient une lettre virale parce qu'on est en 2005, donc Internet est vraiment dans sa vitesse de croisière.
Et ça devient
un fanion de rassemblement des agnostiques et des athées qui, par définition, n'ont pas vraiment de drapeau de Dieu ou de livre ou d'évangile commun. Et donc, dans le monde entier, parce qu'évidemment, l'idée ici est de d'éprouver les religions établies, les pastafariens se mettent à contracter des mariages, à exiger qu'on puisse avoir une photo avec sa passoire sur une carte d'identité, à exiger des droits et des privilèges dont les autres religions instituées bénéficient, avec l'argument massu, qui en fait est une réminiscence de la théière de Russell, et qui consiste à dire, c'est pas plus absurde le fond.
C'est ça,
c'est
défensif. C'est pour montrer l'absurdité des créationnistes. Oui, personne ne le fait au premier degré.
Et des religions en général. Non, bien sûr, il n'y a aucun. Alors, comment j'ai pensé à ça ? D'abord.
Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Comment vous en êtes venu à écrire un livre sur le pastafarisme ?
D'abord, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur la religion. Parce que le fait religieux, on parlait des identités tout à l'heure, me passionne. Personnellement, je suis athée, mais j'ai été croyant beaucoup plus jeune, et surtout, je garde un vrai respect pour toutes les religions, je ne m'en moque pas. Simplement, trouver une manière de parler du religieux et de la raison pour laquelle ça nous travaille, alors que, de toute évidence, si vous regardez le plan scientifique des choses, les chances que Dieu existe n'arrivent absolument pas à la hauteur de celles qui n'existent pas, il fallait un gimmick, et je travaille souvent comme ça, puisque l'idée de raconter une histoire, ouais. que à mon avis plus personne ne lit de façon des traités de philosophie de 300 pages qui sont abscons et qu'il faut emmener le lecteur quelque part, il fallait un gimmick, et j'ai été invité par hasard, je savais vaguement que ça existait le pastafarisme, mais à Bruxelles j'ai été invité par une assemblée de pastafariens. Parce que de la même manière que Alex est parfois invité comme humoriste, on se connaît, hein, à animer des événements, moi, il m'arrivait, un peu moins maintenant, d'être invité comme philosophe pour animer, pour faire une conférence. Et là, en l'occurrence, c'était une petite assemblée, ils étaient 25, pastafariennes à Bruxelles, avec un grand nouilleux, c'est le nom d'un grand dignitaire, qui fait une entrée carnavalesque. Quelques personnes dans l'assistance qui ont une passoire sur la tête. Mais on... C'est pas si cérémoniel que ça. Il y a un minimum de cérémonie, mais c'était surtout un prétexte pour tenir un colloque qui était finalement d'une honorable facture sur qu'est-ce que le religieux aujourd'hui, qu'est-ce que la laïcité, comment doit-on lutter contre des intégrismes, est-ce qu'éventuellement il existe un intégrisme laïque, donc ils peuvent faire aussi parfois preuve d'autocritique. Et je me suis dit, mais alors tous ces gens sont en train de jouer, en sachant qu'ils jouent, ouais. mais ils sont investis avec beaucoup de sérieux dans ce qu'ils font. Évidemment, personne ne croit dans l'assemblée de secondes que le monde a vraiment été créé par un monstre en forme
c'est
de plat de spaghetti.
C'est comme une mise en scène qui suscite la réflexion, en fait.
Oui, et ça marche. Et en les observant, en animant un peu la soirée, en les observant, je me dis, mais ces gens-là sont investis comme des joueurs de poker ou comme des joueurs d'échecs. Et si la religion avait toujours été un jeu, au fond mmh. Et si la plupart des autres cultes s'étaient un jour créés comme ça, mais que la plupart des religions établies ont oublié le jeu originaire dont elles venaient, et qu'elles se soient toutes trop prise au sérieux. Si ce n'est que cette religion-ci est évidemment davantage une religion scientiste, puisqu'elle consiste à dire, les amis, réveillez-vous, la probabilité de l'existence de Dieu est relativement faible, et d'ailleurs, en éprouvant dans tous les systèmes juridiques ce qu'ils font, les privilèges dont bénéficient les religions instituées, en substituant au corpus habituel que nous connaissons, leur corpus à eux, qui est délibérément burlesque, ouais. ils mettent à l'épreuve, alors dans une série de pays ça marche, dans d'autres ça marche pas, les systèmes institués, en montrant que beaucoup de gens ont besoin de spiritualité de religieux, mais pas nécessairement des religions instituées telles que nous les connaissons. Et voilà comment, alors je fais comme d'habitude, j'ai l'idée, j'essaie de décrire un petit peu quelle est ma thèse, qu'est-ce qui m'étonne, quel est le petit titillement du début auquel j'ai pas de réponse. Et puis je me documente. Et l'une peut-être de mes particularités, c'est que je trouve que la philosophie ne doit absolument pas rester dans son couloir, et que de la même manière que pour Eros Capital, en parlant du marché amoureux comme d'un véritable marché, eh ben il faut aller se heurter aussi à ce que nous disent les sciences sociales, mais aussi les sciences dures, les sciences de la vie, l'anthropologie, la génétique. Ici, je suis allé à la fois dans des textes de droit, je suis allé voir jusqu'où la liberté de religion et de conscience était testée à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que, évidemment, sans même les pastafariens, il y a des tas de dossiers qui arrivent devant la Cour et qui demandent des arbitrages. Et puis, je suis allé chez des auteurs comme Pascal Boyer ou comme Richard Dawkins, qui ont interrogé le fait religieux d'une manière anthropologique. Pourquoi est-ce qu'on croit ? À quel besoin ça correspond ? Et pourquoi ? Et je crois que c'est une des réponses aux questions que je me suis posées. Pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de croire ? C'est parce que nous mettons énormément d'estime de nous-mêmes dans les objets de nos croyances. C'est très difficile, et ça marche aussi pour la politique, hein, c'est pas juste ou pour d'autres sujets, c'est pas juste la question religieuse. C'est parfois très difficile de faire changer d'avis à quelqu'un, singulièrement s'il a reçu une éducation pendant toute son enfance, parce que nous apprenons à faire corps avec l'objet de nos croyances et que ça fait partie de notre identité. Et donc, essayer de convaincre rationnellement un croyant que Dieu n'existe pas, s'il a vécu toute son enfance et toute sa vie d'adulte dans la perpétuation d'une série de rites, dans l'entretien de quelque chose, d'une identité, mais qui est aussi quelque chose de familial, quelque chose de traditionnel, quelque chose qui nous relie, c'est ça, une religion, qui nous relie non seulement à un éventuel ami imaginaire qui bénéficie de toute l'information sur nous et qui est à la fois notre super copain, ce qui est quand même le paradoxe de la religion,
mais aussi c'est Dieu.
Dans la vision la plus optimiste des hypothèses disponibles, mais la religion nous relie aussi et surtout à nos ancêtres, au passé et à tous ceux qui pratiquent une même religion que nous. Même quand on ne croit plus, on peut être athée ou agnostique et avoir quand même besoin de fêter Noël en famille. De même, vous avez des gens de culture musulmane qui croient peut-être plus métaphysiquement en Allah, mais qui ont besoin de participer à des ramadans ou à des cultures du jeûne, j'en connais. On a tous ça. Une religion, c'est à la fois quelque chose de vertical, un rapport qu'on pense privilégié avec une entité invisible, et qui est donc généralement un ami imaginaire. Il est toujours bienveillant, ça, partout, dans toutes les cultures. Et un rapport horizontal avec de la famille, des amis, une culture, une entité. Et les deux s'entremêlent, raison pour laquelle il est insuffisant d'aborder la question du phénomène religieux juste sur un truc rationnel. Non, c'est plus compliqué que ça. Et j'essaie de rendre hommage à cette complexité dans ce petit livre.
C'est un plaisir d'écrire ?
Pas toujours. C'est un plaisir au moment où je comprends quelle est la plus-value que je suis susceptible d'apporter. C'est un plaisir quand j'arrive à attraper le lecteur avec une histoire ou avec quelques notes d'humour. J'essaie d'en mettre, c'est pas toujours simple. Il y a des moments où c'est laborieux, parce que tout ce que vous faites n'est pas nécessairement bon. Parfois, il faut couper. Parfois, vous voyez bien que vous vous répétez, mais vous n'avez pas envie de vous remettre. Parfois, telle idée de tel auteur est super, et donc je la retranscris, mais du coup, j'ai une citation trop longue. Donc, comment je fais pour alléger ceci ou cela? La technique d'écriture, je crois que tous les gens qui écrivent des recettes de cuisine, des romans ou des essais de philosophie, à un moment, font face à quelque chose de laborieux. Mais du coup, après, vous êtes content d'en sortir. L'intéressant avec un essai de philo, c'est que, il y a aussi une part il y a le moment où vous vous surprenez vous-même.
Ah oui.
Vous écrivez une phrase, vous arrivez à un concept auquel vous aviez pas pensé. Ça c'est bien. Et vous relisez même vous-même très immodestement 2 minutes avec plaisir. Vous levez le lendemain matin, vous trouvez ça nul. Hein, c'est très classique. Vous êtes dans votre mouvement et puis alors vous enlevez et puis vous essayez de recomposer jusqu'à ce que vous ayez un livre qui corresponde exactement à ce que vous aviez envie de faire. Donc moi je trouve que ce n'est pas facile. C'est gai au début, c'est gai à la fin. Et au milieu, c'est parfois les sables mouvants. Je suis à peu près sûr que c'est la même chose pour tout le monde.
Mais vous avez beaucoup écrit. Il y a quelque chose qui vous tient dans l'écriture. Ça correspond à un besoin. Quel rapport entretenez-vous avec vos livres? C'est un rapport distancié. Une fois que c'est écrit, c'est fait, on peut passer à autre chose. Ou est-ce qu'il y a une forme d'obsession qui revient et un rapport presque organique avec ce que vous avez écrit?
D'abord, je suis toujours très content quand un livre sort. La première fois, c'est tout de même une vraie belle émotion. Non, chaque livre qui sort, c'est en partie un problème réglé. C'est-à-dire que ça fait depuis petit que j'avais envie d'écrire un truc sur la religion. Ouais. Ça fait depuis longtemps que j'ai l'impression que l'amour est un marché qui n'ose pas dire son nom. On est tous supposés être libres d'aimer comme si c'était pas un truc abominablement méritocratique. Et voilà, et je me suis toujours dit, un jour il faudra que j'écrive là-dessus. À chaque fois, je saisis des occasions que la vie m'offre. C'est parfois une rencontre avec des gens qui me proposent d'écrire un livre et parfois des choses se mettent ensemble, mais j'essaie une fois que le livre est sorti, alors forcément il m'accompagne parce que il y a un petit peu de promo, il y a des tas de gens qui se mettent à vous écrire sur le livre que vous venez de sortir parce qu'ils sont pas d'accord ou parce qu'ils sont, ouais, ils sont d'accord, donc le livre vit un petit peu. Et puis de temps en temps, l'Ostego par exemple, c'est son cas, il vit un peu plus, j'ai l'impression, que les autres, parce que il a l'air d'avoir
la tragédie du je suis.
Hein, oui, il a marqué au-delà d'un certain public, notamment les j'ai reçu un prix de la revue neurologique de France, et donc du coup tout un tas de monde dans le monde scientifique classique s'est intéressé à ce livre, et donc vous avez parfois des rebonds comme ça assez étranges, mais ils m'accompagnent tous en permanence, et à chaque fois je me dis mais quelle sera la couleur du prochain et quel est le sujet qui est encore en moi, dont je suis encore un petit peu enceint et qui n'est pas encore sorti.
Et vous avez une idée?
Oui.
Vous n'avez pas le droit de la dire?
Non.
D'accord, prématuré.
Je suis oui, j'ai beau être un abominable pastafariste, je suis parfois superstitieux.
On a encore 2 choses à écouter ensemble et pourtant il reste 1 minute 30. Je rappelle donc les livres dont vous venez de parler, Lost Ego, la tragédie du je suis, Deus Casino sur le pastafarisme, Reductio ad Hitlerum, une théorie du point Godwin. Les 3 sont aux éditions PUF dans la collection dirigée par Laurent Sutter. Eros Capital, les lois du marché amoureux, on le trouve en Flammarion dans la collection Climat. 2 choses, une chanson et un conseil. On commence par le conseil.
Maintenant, comme président de parti, il est amené à participer à de nombreux débats. Je crois qu'il devrait apprendre, et il a évolué, hein, dans le bon sens du terme, ces derniers mois, à être parfois plus mordant. Il faut parfois, en politique, mordre l'adversaire. Voilà. Il commence à y réussir. Indiscutablement, je trouve qu'il y a un progrès.
Eh bien, c'est Hervé Asquin qui le dit. Il faut apprendre à être plus mordant, François de Smet. Vous souscrivez?
Ah, il a raison. Ceci étant, on peut pas changer complètement les personnes. J'ai mon style. C'est vrai qu'on est dans un univers où la petite phrase, le petit tacle parfois inélégant ou le petit tweet bien senti est la règle. Alors attention, hein, je pense pouvoir être très soigné et très percutant quand il faut, mais j'essaie toujours de l'être pour les idées. Et il y a quelque chose de vrai dans l'idée que c'est dur la politique. Vous êtes exposé, vous en prenez plein la tête, vous êtes corvéable souvent le soir et le week-end, vous devez gérer à la fois des grands ensembles problématiques et des petits soucis de la personne qui vient de vous appeler. Mais je crois qu'il faut absolument toujours respecter, il faut être dur sur les principes, ferme sur les idées, mais toujours respecter les hommes et les femmes qui les portent dans l'adversité aussi, et jamais oublier qu'ils ont aussi des proches tous qui peuvent parfois souffrir pour eux. Donc voilà, jamais le physique, jamais la vie privée, jamais, juste le fond des idées. Il y a déjà de quoi, à mon avis, être très mordant. Merci, monsieur Asquin.
C'est tout à votre honneur. On se quitte avec une dernière chanson de votre choix. Vous pouvez en dire deux mots. Alain Bachung, La nuit, je manque, est une des plus belles chansons de tous les temps, on peut le dire.
Oui, oui, je suis ravi que vous me rejoigniez sur ce constat. C'est encore un, comme Pulp Fiction, comme d'autres choses, c'est un élément artistique avec plusieurs niveaux de lecture. Vous écoutez la première fois cette chanson, vous dites, mais ça c'est beau, je me laisse entraîner, je l'apprends même par cœur, mais ça ne veut rien dire.
Oui, on ne comprend rien.
Mais il y a une vraie histoire derrière. Ah, oui. C'est une histoire sur la résistance. Il y a un vrai récit à découvrir. Et j'aime bien, moi, l'idée qu'une œuvre, que ce soit un essai, un roman, un film, une chanson, puisse saisir des publics différents, peut être écouté à des moments de vie différents et avoir plusieurs significations.
Merci François Desmet.
Merci Adèle.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Et aujourd'hui je m'attaque à quelque chose de large, plus large qu'un concept, qu'un mantra ou qu'un conseil. Certains, attachés au pan développement personnel de la philosophie, en font même sa finalité première, le bien-vivre. J'ai souvent lu ou entendu et de temps en temps utilisé cette idée de bien-vivre et pourtant, il faut le dire, ai-je vraiment compris ce qu'elle voulait dire ?
Je suis quelqu'un d'assez émotif, assez passionné. Et Spinoza, qui nous apporte un éclairage extrêmement rationnel sur nos passions, presque géométrique, m'a apaisé. C'est-à-dire qu'en voyant effectivement tout le fonctionnement de l'esprit humain et de nos affects tels qu'il le décrit, je trouve qu'il il nous permet de nous éclairer, de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître. Et du coup, ça donne une sorte de sérénité. En tout cas, je l'avais déjà en partie, mais ça a accentué cette compréhension de l'être humain, de son fonctionnement et de sa relation au monde et de sa relation à Dieu.
Vivre en paix, vivre heureux, vivre serein, peu importe la formulation, l'idée est bien là, il s'agit de bien vivre. Et vous l'avez forcément croisé ou même utilisé. J'ai le souvenir d'y avoir eu recours il y a quelques années sur Facebook pour promouvoir une émission sur Spinoza diffusée sur cette même radio. Une personne avait alors laissé un commentaire moquant et pointant cette instrumentalisation du grand philosophe à son coaching. J'avais été très vexée. Moi, tombant dans cette dérive du développement personnel. Puis, j'avais riposté, intérieurement évidemment, et après tout, pourquoi pas? Pourquoi Spinoza n'aiderait-il pas à bien vivre? Pourquoi faudrait-il sacraliser l'auteur de l'éthique ou inversement snober le développement personnel? Bref, j'ai ainsi réglé mon problème d'ego et celui de Spinoza, mais pas le problème de fond, le véritable enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire, bien vivre? Je ne m'étais jamais vraiment posé la question car ça semblait évident. Bien vivre, c'est bien vivre. Mais qu'est-ce que le bien ici? Est-ce le fait de vivre de manière droite, comme chez Spinoza ou Descartes, une forme de rectitude? Mais alors en vertu de quelles règles? Ou est-ce un clin d'œil, inconscient, à la vie bonne d'Aristote, celle où on accomplit parfaitement ce pourquoi on est fait, mais là aussi, encore faut-il savoir pourquoi l'on est fait.
Comment bien vivre le changement? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question, que vous avez besoin d'aide claire et concise sur cette thématique parce que vraisemblablement, vous traversez un moment où vous avez des choses qui changent dans votre vie et où vous voulez finalement traverser cette période du mieux possible. Mon intention forte, c'est de vous donner 7 clés importantes dans cette vidéo.
Bien vivre est tellement large, tellement vague, qu'en faisant des recherches, vous ne trouverez jamais des conseils comme ça, en l'air, pour bien vivre, mais toujours des préconisations plus précises. Bien vivre le changement, comme on l'a entendu, bien vivre son célibat, bien vivre dans un petit espace, bien vivre sa ménopause ou avec Spinoza, et parfois le tout en même temps. On passe ainsi et sans transition d'injonctions éthiques très abstraites à des outils de bricolage très concrets. Mais la question reste entière, qu'est-ce que bien vivre? Le bien est-il celui de la morale, de la norme, du bonheur? Est-il universel, singulier? Sans parler de vivre, qu'est-ce que ça signifie? Manger, dormir, aimer, penser, vivre avec les autres ou vivre au jour le jour? Et est-ce que bien vivre a quelque chose à voir avec le bien vivre, ce poncif politique? Suivre les règles de la vie en société pourrait-il me faire bien vivre? À chaque tentative d'approche de cette idée de bien vivre, j'avais l'impression qu'elle m'échappait. Tantôt elle était trop floue, trop vaste, tantôt trop précise. Et pourtant, soyons honnêtes, elle a quelque chose qui touche juste. C'est paradoxal, mais ce flottement, cette facilité qu'on pourrait condamner, moquer et critiquer, a en fait quelque chose de vrai et de juste. Mais alors quoi?
Doucement, me bouscule pas. Laisse-moi prolonger l'aube et chanter n'importe quoi. Vive la vie, que c'est bon la vie.
C'est bon la vie,
c'est bon la vie.
C'est bon la vie,
c'est bon la vie.
Certains diront que cette idée de bien vivre plaît car ce n'est que du vent, qu'un slogan, parce que chacun y entend ce qu'il veut, ou parce qu'il s'y cache l'idée de réussir sa vie, d'avoir une belle vie. Mais c'est trop facile, car malgré ces flottements, il y a, je crois, une spécificité dans cette idée de bien vivre qui nous parle, qui sonne bien. Bien. Encore ce bien qu'on ne sait pas définir ou qui nous impressionne. On a tendance à voir le bien comme le bien, avec un B majuscule, cet empire moral et bien-pensant. Mais il y a aussi dans ce bien quelque chose de beaucoup plus immédiat que la morale. C'est cette évocation du doux, du confortable. Bien vivre, c'est comme porter un vêtement qui tombe bien, bien ajusté. Voilà pourquoi je pourrais encore dire qu'on peut bien vivre avec tel ou tel philosophe, pas parce qu'ils sont des cautions, pas pour eux, mais parce que l'idée même de bien vivre est la promesse de me sentir à l'aise.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle avec Isis Jourda, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé cette semaine pour vous, Cindy Legrumelec à la prise de son. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des chemins autour du visage. On parlera de Lévinas, des autoportraits de Rembrandt, du selfie, de Victor Hugo et de ses gueules cassées. Ça, ce sera lundi. Mais je vous donne d'abord rendez-vous demain, samedi 29 février à 11h30 pour l'enregistrement d'une émission en public à l'occasion du nouveau forum organisé par France Culture à la Sorbonne, à Paris. Le thème du forum est le suivant, 2020, la société face au conflit. On se demandera avec mes invités philosophes si nous avons besoin de conflits. L'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire sur le site de la Maison de la Radio et le débat sera diffusé vendredi prochain en lieu et place de l'émission. D'ici là, vous pouvez évidemment podcaster cette émission pour la réécouter à votre guise.